Image culte s'il en est, Ursula Andress sort de l'eau, vêtue de son légendaire bikini blanc, des coquillages à la main. On est en 1962, James Bond affronte le Dr No pour le premier épisode d'une série regardée, dit-on, par 1 milliard de spectateurs sur la planète. 40 ans plus tard, le bikini est toujours là, mais les partenaires du célèbre agent 007 ont changé de ton et de poigne, reflet d'une véritable évolution de la figure féminine, comme le souligne le père Pascal Hyde, docteur en philosophie et passionné de cinéma.
Dans le premier, on voit Renée, jouée par Ursula Andress, qui est toute soumise jusqu'à sa voix de petite fille, qui ne recherche qu'un père protecteur devant un mâle qui lui-même trouve un grand plaisir à jouer au surpuissant, celui qui sait tout, qui peut tout et qui est toujours victorieux. Alors que lorsqu'on regarde le dernier, on voit que celle qui remplace Ursula Andress devient un partenaire à part entière, qui rentre dans le jeu de séduction, qui n'est plus en rien soumise, qui va même le dominer. Et donc, là, on voit une femme qui se veut l'alter ego, partenaire de l'homme. Et ce qu'on observe même chez d'autres films où les femmes sont mises en valeur, c'est que la femme non seulement se veut l'égale, mais à la limite voudrait se passer de l'homme. On le voit par exemple dans le succès de Lara Croft ou Charlie's Angel, où là, la femme a pour elle-même tous les attributs féminins et masculins. Elle devient celle qui sait tout, celle qui peut tout, qui se bat encore mieux que l'homme. Les hommes eux-mêmes, en général, sont réduits soit à être ridicules, et s'ils sont intelligents, ils sont forcément laids, soit à être méchants. Bref, on voit une espèce de passage qui serait assez typiquement féministe, d'une femme soumise à une femme qui prend sa revanche en évacuant l'homme, comme dans la publicité Koukaï, on voyait des hommes mis dans une lunette WC et qui étaient évacués par des femmes trop heureuses de se passer de la moitié de l'humanité qui, pendant tellement de siècles, l'a fait souffrir.
Une femme indépendante qui pourrait se vouloir toute puissante, pas d'autre alternative donc que de se soumettre ou de dominer, si bien sûr l'analyse de Pascal Hyde.
Seule la femme et l'homme ensemble sont féconds. La tentation pour l'être humain, que ce soit l'homme ou la femme, est de vouloir être tout. Et le fait qu'il faille être deux pour donner la vie est bien significatif que seul Dieu est tout. L'être humain doit, pour pouvoir trouver sa vocation, être avec l'autre, donc vivre une communion.
Unité, communion, une aspiration profonde de l'homme portée à l'écran par Sidney Pollack dans son film aux 7 Oscars, Out of Africa. Dès les premières images, Karen Blixen, jouée par Meryl Streep, rend hommage à l'aventurier Dennis Finchatton, l'homme de sa vie qui, par deux cadeaux, l'a ouverte à plus grand qu'elle-même.
Premier cadeau, un stylo. Lorsqu'elle a charmé lui, Denis et son ami, en leur contant toute la nuit des histoires. Et deuxième cadeau, c'est ce fameux baptême de l'air. On va voir successivement le visage de Meryl Streep, d'abord effrayée quand elle va apprendre qu'il n'a appris à piloter un avion que la veille, puis après ça être émerveillée en regardant à droite à gauche ce lac de flamants roses qui change de couleur quand l'avion s'approche. Et enfin, lorsque l'avion s'élève dans l'air et de plus en plus haut, la joie plus que pleine qui habite Karen va faire déborder même, pas seulement de son cœur, mais de ses yeux, des larmes qui sont des pleurs de joie, comme disait Pascal dans le mémorial. Et donc on voit cette femme qui est dans le bonheur, pas seulement de la communion qu'elle a avec Denis, mais parce qu'elle reçoit de lui sa fécondité. Ce stylo, c'est celui avec lequel elle écrira après, obéissant d'ailleurs à la demande de Denis. Et on sait que Karen Blixen, dans la réalité, sera prix Nobel de littérature.
Un baptême de l'air où Karen a comme découvert le monde à partir du regard de Dieu, selon ses propres mots. Le monde et ses grands espaces africains, montrés par la caméra comme à l'état originaire. À ce moment de la Genèse où Dieu créa l'homme à son image homme et femme, il les créa. Et c'est justement dans cette communion, souligne Jean-Paul II, que l'homme et la femme sont une icône vivante du Dieu Trinité.